Sur la plage cet été, sympa souvenir. Je me suis demandé si on peut les évoquer en des jours de pénitence. Oui, bien sûr, on a justement besoin de cela dans l'épreuve, de se souvenir de ce qui a été bon, de se souvenir des bienfaits. Bref, le soleil, les vacances, la mer. À la toute fin de l'été, pour un mariage, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a été présentée par des amis d'amis, et puis s'est avéré que c'était aussi la nièce d'un paroissien. Pour la présenter rapidement telle qu'elle s'est présentée à moi, célibataire, approchant la quarantaine, elle avait travaillé comme une folle pendant 15 ans. Pour son plus grand bonheur, elle s'était, connaissez l'expression, elle s'était éclatée. Elle avait gagné aussi beaucoup d'argent, suffisamment pour s'acheter un appartement. Et puis à un moment, elle avait fait un break. Elle avait pris une année sabbatique pour réfléchir à sa vie. Et, m'a-t-elle dit, pour chercher un travail qui ait du sens. Et l'année touchait à sa fin. Et elle allait devoir revenir sur le marché du travail et elle se demandait si elle n'allait pas retourner à son activité passée. C'est ce qui se passe pour les apôtres à la fin de l'évangile de Saint Jean. Pour un petit groupe d'apôtres, dont Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dont il est question aujourd'hui dans l'évangile, c'est ce qui se passe après la mort de Jésus. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche », ils répondent « Nous aussi, on y va avec toi ». Et vous savez ce qui se passe, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Après 3 années passées avec Jésus, 3 années sabbatiques, 3 années en mission, peu probable qu'ils aient perdu la main. Peut-être davantage que le cœur n'y était plus. Et vous vous souvenez surtout, ou vous relirez le chapitre 21 de Saint Jean, Jésus était là. Jésus était là sur le rivage. J'ai connu des prêtres, des frères prêtres, des religieux, des religieuses, des sœurs consacrées, qui sont retournés à la vie civile, qui se sont remis sur le marché du travail. Ouf ! C'est dur. C'est dur parce que dans l'Église, on prend facilement de mauvaises habitudes. Globalement, on n'est pas très professionnel. L'Église n'est pas, elle n'a jamais été, elle ne sera jamais compétitive. Mais elle sera encore là dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Elle sera là jusqu'au retour du Christ. On espère de façon purifiée. On espère avec quand même des progrès. Mais elle sera toujours là quand tout ce qui est aujourd'hui à la pointe, quand tout ce qui est à la mode aura disparu. C'est comme ça que ça se passe depuis 20 siècles. Qu'on annonce sa disparition, sa perte. Mais il est la promesse du Christ et cette réalité, les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Qu'est-ce qu'un travail qui a du sens? Par le passé, on aurait dit un travail vertueux. C'est-à-dire qu'il ne soit pas seulement utile pour soi, financièrement et même économiquement, pour les siens, pour sa famille, même pour la société. Mais qu'il soit bon, on va dire, pour l'humanité, on va dire aujourd'hui pour la planète, qu'il soit à la fois éthique et écologique. Jacques et Jean, les deux apôtres, travaillaient avec leur père quand Jésus les a appelés. Et l'Évangile raconte qu'ils l'ont laissé avec ses ouvriers. C'était un petit patron de pêche, Zébédée le père. Et ce modèle familial patronal a très vraisemblablement joué dans leur idée qu'on vient d'entendre, de se placer et de vouloir régner, même si c'est avec Jésus dans la gloire, de vouloir diriger. C'est ça l'image, le modèle qu'ils ont eu. Et il n'est pas indifférent que dans l'évangile de Saint Matthieu, qui raconte l'histoire, c'est la maman qui intervient. C'est leur mère. La mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterne pour faire une demande. Jésus dit « Que veux-tu ?» Elle dit « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Mercredi, ici, dans cette église, nous avons eu une réunion de préparation au mariage sur ce thème de la relation à nos familles, aux parents. Et le conseil vif, ferme que nous donnons aux fiancés, c'est de se mettre au clair sur leur modèle d'origine, sur leur, on va dire, sur leur conditionnement, mais avant tout sur leur liberté. Leur liberté. C'est la même chose dans l'Église. La gratitude, la reconnaissance de tout ce que nous avons reçu n'empêche pas la vérité. Au contraire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail vertueux ? Pour revenir à cette jeune femme que j'ai rencontrée, sa difficulté, c'est qu'elle n'avait pas d'expérience, elle n'avait jamais eu d'engagement social. Elle ignorait, certains diraient assez pompeusement, la gratuité. D'autres, plus réalistes, diraient qu'elle ignorait à quel point c'est ingrat. C'est ingrat de s'occuper des autres. Et elle-même, elle ne semblait pas prête à renoncer à son train de vie, son niveau de vie. Vous savez, c'est toujours l'équilibre à tenir. Elle voulait s'occuper des autres et être bien payée. C'est ce qu'on entendait dimanche dernier, c'est l'évangile de l'homme riche. Le travail est vertueux quand les personnes avec qui on travaille, sinon le sont, cherchent à l'être. Et au fur et à mesure où on travaille, on avance dans la vie, on s'aperçoit que l'activité en elle-même importe moins que les personnes avec qui on est, et que surtout que le type de relation qu'on entretient ensemble, avec évidemment au premier chef la place du patron, l'estime du patron, la relation de confiance, si possible d'admiration. Et beaucoup d'entre vous l'ont connu, voire le connaissent, c'est le problème quand le patron change. On a été habitué à une certaine façon de travailler, et puis il y a un nouveau qui vient tout critiquer, tout bouleverser. Dans ces cas-là, le changement est difficile, mais en cas de faillite, il est vital. Que dit le Christ aux fils de Zébédée ? Ce que leurs parents auraient dû leur dire, leur enseigner, ce que tous les parents devraient enseigner à leurs enfants, de savoir quel est le prix à payer. Ici, il s'agit d'une sorte de règle d'or inversée. La mesure dont vous servez pour les autres, dit l'Évangile, servira aussi pour vous. C'est à la façon dont vous traiterez les autres que vous serez traités. Autrement dit, votre ambition est belle. Mais quels sont les moyens que vous allez prendre ? L'enseignement de Jésus n'est pas un manifeste politique. Il n'y a pas de sa part la moindre remise en cause du principe hiérarchique, du rôle de l'autorité. Mais c'est un appel permanent, constant, à la charité, à la fraternité, un appel avant tout à la conversion. Le défaut de la demande des fils de Zébédée n'est pas d'être ambitieuse. Nous devrions tous rêver d'avoir pareille ambition, d'être avec le Christ dans l'éternité. Mais pourquoi faire ? Pas pour régner ! Pas pour régner ! Et pourquoi les autres sont indignés ? C'est parce qu'ils sont aussi égoïstes que nous. Et nous avons tous autant de mal à comprendre que le Fils de l'homme n'est pas venu pour siéger, il n'est pas venu pour être servi. Le geste le plus iconique, ça va au-delà du symbole, le plus fort que nous devrions avoir en tête à chaque messe, que nous ne faisons qu'une fois par an, mais qui devrait nous marquer profondément, c'est le geste du lavement des pieds. Avant de se lever d'entre les morts, le Christ Jésus s'est levé au dernier repas pour laver les pieds de ses disciples. Dans la religion chrétienne, le travail a du sens quand les grands sont au service des petits. Voilà notre chemin de conversion. Voilà la grâce à demander au Christ.
Il y a cette très belle prière que vous connaissez, « Âme du Christ, sanctifie-moi. Anima Christi, sanctificame. »
Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi.
Créateur du ciel et de la terre.